voix nue. Cette semaine, Camille Jusot rencontre Hubert Reeves. Ce soir, le ciel d'une nuit d'été au Canada.
Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous dans votre appartement parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés. Autour de nous, il y a de nombreuses plantes, des fleurs aux pétales délicates. L'ensemble baigne dans un puits de lumière qui traverse les carreaux, donnant à l'appartement des allures de serre en fin de journée. Quelles sont ces plantes de votre quotidien, Hubert Reeves ?
Alors, moi, j'aime beaucoup avoir des plantes qui existent depuis très très longtemps. Par exemple, derrière vous, il y a une plante qui s'appelle le cica. C'est une des premières plantes sur cette planète. Elle a de l'ordre de 350 millions d'années. Pas elle, mais ses ancêtres. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux. On peut comparer cette plante qui vit aujourd'hui avec des fossiles de cette plante et voir jusqu'à quel point le dessin est le même. Ce qui veut dire que des centaines de millions de fois, cette plante s'est reproduite et que chaque fois, elle est arrivée à rester fidèle à elle-même. Elle a les mêmes formes, les feuilles, les tiges et tout ça. C'est cette espèce de permanence de la vie que j'aime beaucoup avoir autour de moi, sentir tout cela, que nous sommes dans quelque chose qui a de l'âge, qui a quelque chose qui dure depuis longtemps.
Il y a au fond de la pièce aussi une grande bibliothèque composée des livres qui vous ont accompagné le long de votre parcours. On imagine y trouver des poètes, des philosophes, peut-être quelques précis scientifiques, et sans doute dans un coin les livres de votre enfance abîmés par les années et les voyages.
Tout à fait correct.
Parmi ces étagères, quels sont les livres que vous tenez particulièrement en affection, Hubert Reeves ?
Ça dépend des années. J'aime beaucoup lire les livres des philosophes anciens, grec ou latin, et savoir qu'ils se posaient les mêmes questions que nous. Il y a 2000 ou 10 000 ans, la question « Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quel est le sens de la vie ?» Et voir comment, aujourd'hui, ces questions se posent également, mais avec beaucoup de réponses, pas de réponses définitives, évidemment, mais le cadre est beaucoup plus richement organisé, parce que nous avons tout ce que la science nous a apporté depuis le temps des Grecs anciens jusqu'à aujourd'hui, tous ces faits que nous savons, sur lesquels nous pouvons compter, qui ne répondent pas à nos questions parce qu'elles sont plus, disons, philosophiques, mais enfin qui éclairent un peu la situation. Et ça, je trouve ça intéressant et ça me fascine de penser qu'est-ce que, par exemple, si Empédocle revenait sur la Terre et si on lui apprenait ce que nous savons depuis, qui a été appris depuis qu'il a vécu, comment il réagirait. C'est-à-dire se mettre dans la foulée d'une grande interrogation, l'interrogation de l'humanité. Il y a des choses maintenant que nous savons, que nous ne savions pas à cette période. Qu'est-ce que ça change à notre vision du monde que de savoir cela qu'on ignorait?
Il y a des photos également dans des cadres sur une table basse, des portraits de famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, des clichés en noir et blanc aussi, où l'on distingue peut-être les visages de vos parents. C'est d'eux dont nous parlerons aujourd'hui. Hubert Reeves, vous êtes astrophysicien. Vous avez parcouru les laboratoires prestigieux du Canada où vous avez grandi, et ceux des États-Unis, pour ensuite vous installer en Europe et en Belgique, puis en France. Vous avez sillonné le monde pour vos travaux, notamment sur la synthèse des éléments chimiques dans les étoiles. Et depuis plus de 50 ans, on vous connaît, en particulier pour vos qualités de vulgarisateur. Vous transmettez avec délicatesse et poésie les mystères complexes de l'univers, son fonctionnement, son organisation, son histoire, dont l'homme, nous, faisons partie. Vous vous êtes posé, vous l'aviez dit, sans cesse les questions aussi fondamentales que « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Où cherche-t-on les réponses à de telles questions ? Est-ce dans l'analyse précise et scientifique des structures géantes de l'univers ? Est-ce dans le regard sensible et patient sur la nature toute proche ? Ou est-ce en soi, dans les archives de ses expériences intimes et personnelles ?
Je dirais partout. Tout ce que vous avez nommé intervient. Non seulement le fait d'apprendre les résultats d'expériences qui ont été faits avec des grands ordinateurs, expériences qui ont été faites dans des laboratoires de biologie. Et la chose la plus frustrante qui soit pour moi, c'est d'apprendre qu'un jour, je n'aurai plus le moyen de lire mes revues scientifiques favorites et d'apprendre toutes ces merveilles que nous donne aujourd'hui la science, l'observation et la vie personnelle, et que malgré tout, ça va continuer et que dans quelques siècles, on en saura beaucoup plus, sans doute, que j'en sais moi-même, mais que je n'aurai pas le moyen de savoir. Pour moi, c'est la grande frustration. Mais ça fait partie, je pense, que ce qu'on peut appeler la grande aventure univers. Comment cette aventure va se poursuivre et jusqu'où irons-nous? Et est-ce qu'on obtiendra des réponses à des choses aussi simples que de dire pourquoi l'univers existe? Qu'est-ce que ça veut dire exister? Et ça, ça me paraît être les choses les plus intéressantes qui m'ont toujours fasciné. J'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour les gens qui nous apprennent des choses nouvelles, qui nous apprennent, par exemple, l'ADN, la construction de la vie. C'est fantastique. Si non seulement les scientifiques qui font des bons instruments, mais aussi les philosophes qui interrogent les idées, la cohérence des idées, comment cette aventure doit se continuer pour qu'on aille le plus loin possible, sachant que, un jour, ça s'arrêtera pour nous.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question d'où venez-vous, Hubert Reeves. Vous naissez à Montréal en 1932. Pouvez-vous nous décrire l'appartement dans lequel vous grandissez avec votre frère, votre sœur et vos parents?
Oui, c'est à Montréal. C'est dans une maison assez vieille où nous habitons avec mes parents et mes grands-parents. C'est une période assez difficile, c'est la fin de la crise, le début de la guerre, c'est le moment où il y a très peu d'argent et la vie est très dure. Et il y a, comme très souvent, quand il y a des problèmes majeurs, sociologiques majeurs, les gens s'intéressent à des questions fondamentales. Quand tout va bien, on vit bien. Moi, j'avais des parents qui étaient des véritables amateurs de nature, qui nous amenait dans la campagne, qui nous amenait voir les plantes, les animaux, les étoiles, tout ça, avec cette intuition plus ou moins vague que c'est de ce côté qu'il y avait des choses à scruter. Nous avions une maison à la campagne avec un grenier, un vieux grenier, plein de livres, les livres qui étaient abandonnés par mes oncles. À la fin de leurs études, on mettait tous les livres dans les valises et on montait le tout au grenier et puis ça restait là. Et c'était beaucoup un de mes jeux favoris, c'était d'aller dans ce grenier et de fouiller un petit peu. Et en particulier, il y avait plusieurs de mes ancêtres, mes grands-parents, qui connaissaient assez bien l'astronomie. Et ça m'intéressait beaucoup de savoir, à l'école où j'allais, il n'y avait pas de cours d'astronomie, mais là, je trouvais des éléments qui m'intéressaient et qui me paraissaient devoir être, ça vaut la peine de les scruter.
Cette maison a un joli nom d'ailleurs, l'Espérance.
Cette maison s'appelle Espérance, oui.
C'est la maison de votre grand-mère?
C'est la maison, oui, de mes grands-parents. Qui a plus d'un siècle maintenant, évidemment, pour l'Europe, c'est rien. Mais en Amérique, une maison qui a un siècle, c'est assez rare. Avec la possibilité du contact, puisque cette maison de campagne était au bord de l'eau, et nous avons des cieux très, très clairs, et tout ce que représente pour un enfant, pour un adulte aussi d'ailleurs, tous ces petits points lumineux qui sont là, a priori, on n'a pas la moindre idée. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose? C'était le grand sport de l'humanité pendant longtemps, de dire ces constellations portent des messages. Aujourd'hui, on est plutôt sceptique sur ce plan, mais ça faisait partie de ce qu'ont vécu les êtres humains. Et à cette époque où il y avait très peu de lumière, on voyait beaucoup mieux le ciel qu'aujourd'hui. Maintenant, avec les éclairages, le ciel est le grand absent de notre civilisation. Eh bien, on pouvait se poser des questions et dire, il y a un rapport et tout ça. Ça, c'était les choses qui me posaient problème et que j'aimais beaucoup essayer d'étudier. Et mes parents étaient des véritables, ils avaient le culte de la nature pour eux. La nature, dans le sens le plus général, c'était quelque chose de divin, disons. Enfin, c'est au Québec, la religion officielle était le catholicisme, et pour nous, enfants, il n'y avait pas de contestation. On ne conteste pas quand on a 10 ans ou 12 ans. Mais on vivait dans une ambiance très positive, où Dieu était avec nous, le petit Jésus et tout ça. Et cela donnait la possibilité d'avoir une attitude un peu sacralisée, disons, vis-à-vis du ciel. On mettait beaucoup de maisons d'oiseaux, et on voyait avec plaisir revenir les hirondelles, on voyait les poissons, et tout ça était comme dans quelque chose d'un peu sacré, qui fait que pour moi, c'était vraiment les choses qui m'intéressaient le plus.
Comment se passent les soirées la nuit tombée, justement, dans cette maison, entourée de votre famille élargie, votre grand-mère Charlotte, et parfois vos cousines?
Oui, il y avait beaucoup de musique. Tous étaient des amateurs de musique. On avait un phonographe, ça s'appelait comme ça, on avait des disques 12 pouces, vinyle, et puis, dès qu'il faisait un peu noir, on sortait hors de la maison, sur le quai, au bord de l'eau, et on écoutait de la musique, et on avait la même dévotion, disons, par rapport à la musique, Bach, Beethoven, Stravinsky. C'était toujours un plaisir quand un de nous arrivait avec un nouveau disque en disant, ça, vous ne connaissez pas, le Sacre du Printemps, Petrushka, et c'était toujours quelque chose de nouveau. Et il y avait une sorte de convention qui fait que les amis qui arrivaient à ce moment-là ne saluaient personne, s'étendaient sur une chaise s'ils en trouvaient une ou bien au sol, et puis écoutaient. C'était une sorte de réunion en silence où les amis se retrouvaient autour du Magnificat de Bach, par exemple, ou des choses comme ça. Puis à la fin de la soirée, on mangeait un peu. Mais c'était de très beaux souvenirs de mon enfance.
Et votre frère André vous éveille à la musique de Wagner, mais aussi, oui, à la littérature, oui, à Shakespeare, à Homère. Vous aviez plutôt les mêmes goûts, je crois. C'était une chance.
Oui, exactement. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que chaque fois qu'il me disait « Ah, tu connais pas Bruckner ?»« Non, ben, écoute-le, tu vas l'aimer. » Et puis, chaque fois, je me disais « Comment il devine ?» Comment nous avons cette même, on dirait, est-ce que c'est dans les gènes, je ne sais pas. Une autre fois, il revenait de Bayreuth, en Allemagne, écoutait du Wagner, et il m'avait dit, il faut que tu ailles. Vous voyez, il y avait sur moi cette espèce d'influence. Je savais à l'avance que ce qu'il aimait, elle devait de bonnes chances que je l'apprécie aussi.
Et une autre personne a eu une place très importante dans le bonheur de ces étés-là, c'est le père Louis-Marie, un moine trappiste proche de votre mère. Quels sont les mondes que vous découvrez à travers ses yeux ?
Oui, le père Louis-Marie est un trappiste, et à cette époque, c'était pas encore la séparation de l'Église et de l'État, à l'université, les professeurs pouvaient être choisis parmi des religieux qui étaient excellents religieux. Et il y avait un ami de la famille qui s'appelait le père Louis, qui venait souvent nous rendre visite et qui était généticien. Et pour moi, ça me fascinait quand il me redisait « Regarde dans mon microscope, qu'est-ce que tu vois ?» Et je regardais dans le microscope et je voyais des petites bestioles qui bougeaient. Et je regardais à côté et je disais « Mais où sont-ils ? » ?»« Ils sont là, là-dedans !» Et ça me paraissait de la magie. Ça me paraissait extrêmement mystérieux, comment ils faisaient. Mais ça me fascinait, ça me faisait découvrir un nouveau monde. Vous êtes dans une pièce, il y a des chaises, il y a des tables. Tout d'un coup, vous avez cet objet qui est le microscope. Vous regardez dedans et ça bouge dans tous les sens, comme s'il y avait un autre monde là, un monde à une autre échelle, qui ignore tout de votre échelle, et vous l'ignorez. Mais grâce à ce télescope, d'où le côté un peu magique de la science. De la même façon, j'avais avec un ami, on avait fait un télescope, on avait arrangé un télescope, et le soir, on allait voir les planètes, et tout d'un coup, de me retrouver devant le ciel, les planètes, les satellites de Jupiter, pour moi, c'était des émerveillements.
Vous rejoignez à un collège jésuite, ce qui représente malgré tout un sacrifice financier pour le foyer Reeves, mais l'enseignement des enfants a la priorité des parents. Quels souvenirs gardez-vous de ces années d'enseignement? Quelles sont les curiosités du jeune collégien que vous êtes, ses jeux, et peut-être aussi les limites disciplinaires que vous avez pu franchir?
C'était donc un collège de jésuites. Ils n'étaient pas tous égaux en valeur, mais il y avait là des hommes que je considérais comme des gens qui étaient valables. C'est-à-dire, j'étais prêt, et souvent, des leçons que j'ai eues d'eux quand j'étais petit me reviennent en mémoire. C'est quelque chose qui m'a construit. Il y avait des hommes qui avaient vraiment une grande culture. Évidemment, il y avait tous les problèmes reliés au catéchisme et la messe et les confessions et tout ça. Ça, je m'en serais bien passé. Mais il en reste quand même que j'ai rencontré des hommes que j'admirais. Et quand j'admire quelqu'un, j'ai envie d'être comme lui. Pour moi, c'est un moteur très puissant. Si j'ai un professeur de lettres qui connaît bien Shakespeare ou quelqu'un d'autre, je me dis, tiens, c'est auprès de lui que je vais réussir à comprendre, à entrer dans ce monde.
Et alors, lorsqu'on vous demande au catéchisme de citer les êtres invisibles, vous aviez répondu les anges, les démons, les microbes et les chromosomes.
Oui, exactement. Ça avait fait parler de soi. Effectivement, parce que comme c'était dans la famille, presque au même niveau, les anges, les démons ne jouaient pas un rôle trop important, heureusement. Mais tout ce monde un peu sacré collait très bien avec le monde réel, puisque tout cela, c'était dans un cadre de foi. La foi, c'est quelque chose qui restreint. Et après un certain temps, vous vous posez les questions, et je ne suis plus dans ce monde aujourd'hui. Mais le fait qu'il ait été présent par mon choix, c'était simplement, j'étais arrivé dans une famille très, très catholique où les actions, la morale, ce qu'il fallait faire était clair. Et ça, je crois que ça aide beaucoup à quelqu'un de ne pas être pris dans un monde contradictoire où les uns trouvent mal, d'autres trouvent bien, etc. Donc ça aussi, ça a été heureux pour moi, bien que j'ai été heureux d'en sortir aussi.
Pourriez-vous nous décrire votre père, Joseph Aimé, et votre mère, Manon?
Alors, mon père était un homme. Un jour, j'ai rencontré, après sa mort, j'ai rencontré quelqu'un qui le connaissait, et je lui ai dit, mais dites-moi comment il était, mon père. Alors, il a réfléchi un certain temps, et il a dit, il était droit, en montrant le pouce comme ça, droit. Après quelques temps, j'ai dit, mais c'est pas très clair, qu'est-ce que ça veut dire, être droit? Il était toujours droit, c'est ce que je peux dire de lui. C'est-à-dire, c'était un homme avec une grande force morale, et qui pour moi est resté comme un roc d'une certaine façon. Je m'appuie souvent sur lui quand je suis dans des positions difficiles. Mon père disait souvent, c'est quand ça va mal qu'on peut montrer ce qu'on vaut. Quand ça va bien, tout va bien. Quand ça va mal, qu'on est pris dans des difficultés, c'est là qu'il faut faire appel à soi-même et c'est là qu'il faut montrer qu'on est droit. Donc c'est un peu dans ce monde-là que je vivais.
Au même moment où votre mère jouait au piano, oui, la sonate au clair de lune?
Voilà. À cette période, ma mère était musicienne, jouait du piano assez bien. Quand j'étais enfant et que j'en entendais jouer du piano, j'allais dans le salon et je restais à l'écouter. Et pour moi, c'était fantastique. C'était, comment dire, c'était une sorte de plénitude. Et c'est à partir de là que, pour moi, la musique est devenue indispensable. Je trouve que la musique, surtout la musique de groupe, c'est l'espèce humaine à son meilleur. Quand je vois à la télévision, maintenant, on a tout cela, un orchestre, un groupe de musique de chambre, dans lequel je vois ces personnes très différentes, tout d'un coup unies dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui se fait. C'est pas dans la nature, la musique de chambre. La musique de chambre, c'est les êtres humains qui l'ont inventée, après avoir inventé les violons, les instruments et tout ça. Mais pour moi, c'est ça. C'est quand je regarde et quand on est porté à dire que les hommes sont bêtes, des choses comme ça, je me dis, pas toujours.
Hubert Reeves, vous êtes enfant curieux de tout. La biologie dans la nature, la littérature, la musique. Qu'est-ce qui vous pousse vers la science en particulier?
La science m'a paru l'endroit, là je vous donne des réactions d'enfant, l'endroit où on essaie d'être vrai, de ne pas être futile. J'avais beaucoup de parents qui étaient des avocats ou des ci et ça, et j'étais toujours frappé parce que je pourrais appeler la futilité de tous ces débats sur les murs mitoyens ou sur les héritages. Tout ça me paraissait totalement indigne d'intérêt. J'aimais beaucoup mieux apprendre, parler de la galaxie d'Andromède et de ses anneaux, des anneaux de Saturne, pardon, et des amas globulaires, parce que ça avait une résonance de quelque chose de vrai, quelque chose qui me plaisait, qui habitait dans le même monde que moi et qui n'était pas sujet, ou peu, mais beaucoup, certainement beaucoup moins que la politique, à la négation, au doute. Ça me paraissait des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de réel, de crédible, sur cet univers dans lequel nous sommes débarqués un jour, nous sommes plongés et nous nous posons des questions, où ça va, d'où ça vient, tout ça. Et qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je peux faire là, qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je... etc. C'est cette question, quel est le sens de tout cela? Je ne pense pas que la science puisse répondre à ces questions, mais elle donne des renseignements qui dit quelque chose sur ces questions. Par exemple, quand on a appris, il y a maintenant tout juste un siècle, que l'univers n'a pas toujours existé, eh bien, c'est une question importante de dire, nous entrons dans une histoire. Le fait que nos vies, de notre naissance à notre mort, s'inscrivent dans une histoire dont nous ne connaissons pas a priori le sens. Et nous essayons de le comprendre, soit par de la science, soit par de l'histoire, c'est-à-dire, par exemple, en lisant ce qu'ont écrit sur ces sujets des philosophes antiques ou des poètes ou des gens qui sont allés plus loin dans la perception de ce mystérieux « ça ».
Pour vérifier votre intuition de bien vouloir devenir astronome, vous faites un stage dans un observatoire. C'est en 1950 à l'observatoire de Harvard à Agassiz, pas bien loin de Boston sur la côte Atlantique. Quelles sont vos premières impressions en arrivant là-bas de nuit, en croisant les premiers chercheurs et en observant les premières images à travers l'œil des télescopes, Hubert Reeves?
Oui, c'est là aussi j'ai retrouvé beaucoup de noblesse. J'ai vu là des gens qui étaient complètement, entièrement absorbés dans leur tâche et qui la prenaient très au sérieux. Ce qui me plaisait par rapport à cette futilité dont je vous ai parlé. Le fait de voir ces gens qui travaillaient depuis des années, qui patiemment faisaient des observations, arrivaient à des conclusions, mais c'était des conclusions dont je n'avais pas à mettre en doute la valeur. C'était des faits, des observations, c'était comme avancer sur un terrain un petit peu solide. Et j'ai donc, à cet observatoire, j'ai eu la chance, moi j'étais jeune étudiant, je ne sortais même pas du collège, mais je m'étais dit, moi je veux devenir astronome, mais je ne sais pas comment c'est à être astronome. De quoi ça a l'air dans la vie courante? Donc j'ai demandé à cet observatoire s'il voulait me prendre pendant l'été comme aide pour faire des petits travaux, etc. Et j'ai eu une grande générosité de leur part. Ils m'ont demandé pour $1 par jour, de venir le temps que je voulais. Et puis, ils allaient me mettre sur les différents télescopes avec des astronomes, pas amateurs, professionnels. Et je pourrais discuter avec eux et observer avec eux le soir. Et ça a été pour moi quelque chose de grandiose. Une nuit avec beaucoup d'étoiles et des télescopes, ça vous touche beaucoup. C'est quelque chose, ce sont des souvenirs inoubliables.
Vous avez en tête une des premières images que vous avez vues?
Alors, la première image que j'ai vue et que j'ai trouvée mystérieuse, c'était quand sont venus me chercher à la gare des astronomes qui allaient m'accueillir. Et je vois un d'entre eux qui avait sur l'œil un masque, vous savez, comme le capitaine Cook. Un masque, je me disais, il doit avoir une maladie des yeux, ce monsieur, parce que... Et puis, j'en vois un autre, un masque encore. Un troisième, je me disais, ma foi, il y a une épidémie ici. C'était pas ça du tout. C'était pas ce qu'on appelle accommodé. Quand vous avez fini de manger et que vous allez dans votre télescope, il fait noir. Votre œil n'est pas habitué à l'obscurité. Ça prend une bonne demi-heure à rester dans l'obscurité pour que votre œil adapte. Et vous voyez rapidement beaucoup plus de choses que quand vous êtes arrivé. Donc l'idée d'avoir cette espèce de masque sur l'œil, c'était prendre l'avance. Mais je trouvais que c'était très astucieux comme idée, que ces gens étaient vraiment consacrés à leur tâche, puisqu'ils préparaient, c'était quelque chose qui était très, très sérieux. Comme on travaillait la nuit, le jour on dormait, pas toute la journée, donc ça donnait toujours lieu à des discussions. C'est une des premières fois où j'ai entendu parler d'athéisme, par exemple, parce que quand j'étais au Québec, l'athéisme n'existait pas. Et j'ai pu parler avec des athées dont on m'avait plus ou moins signalé que c'était pas des gens fréquentables. Et je me suis rendu compte, en discutant avec eux, qu'ils étaient beaucoup plus fréquentables que ceux qui m'enseignaient une religion un peu frelatée, avec des choses plus ou moins valables. Pour moi, c'était comme entrer dans le vrai monde. Quitter la famille, les parents, les religieuses, sœurs de ma mère ou autres, et puis de rencontrer des gens qui se posaient vraiment des questions, qui n'étaient pas dans la certitude. La religion catholique a cet aspect qui finit par m'agacer, qui est de dire « c'est Dieu qui l'a dit ». Et ça me paraissait demander des preuves.
Merci Hubert Reeves.
Merci.
Nous parlerons demain de votre parcours de scientifique à un moment de l'histoire où les découvertes sur l'atome créent l'émulation chez les chercheurs, en même temps que des désastres nucléaires. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusot avec Hubert Reeves. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son François Rivalant, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.